émission, cette première émission de Money Time, une émission sur le basket, une fois par mois, c'est la première. L'idée, découvrir ou redécouvrir ou se familiariser avec le monde merveilleux de la balle orange à travers le regard subjectif d'un passionné de NBA. Culture basket, sociologie de comptoir, histoire de la compétition qui s'est modestement baptisée la Grande Ligue, hein, avec toute humilité des Américains. Équipe marquante, anecdote cocasse ou dramatique, joueur emblématique et légendaire, match d'anthologie. Les 30 dernières années, héritage de la Dream Team, ont porté une culture urbaine du hip-hop aux jeux vidéo, de la mode vestimentaire au vocabulaire de tous les jours. Et à travers ces trois dernières décennies, l'histoire d'un homme qui découvre sa voie, qui rêve de gloire et qui va grandir au rythme des exploits du numéro 23 des Bulls, du 8 des Lakers, mais plus réellement du numéro 3 du 8. Donc je suis ravi de vous accueillir, moi c'est Wam, et j'ai, comme je l'aurai tous les 15 jours, un invité qui s'appelle aujourd'hui...
Mathéo,
bienvenue Mathéo. Alors Mathéo, il va tenir une chronique dans cette émission. Il nous parlera régulièrement d'un joueur que tu passeras au crible, hein, un grand joueur, en général un joueur de l'histoire qui a marqué son temps. Tu nous en apprendras un petit peu sur ce joueur et puis tu pourras interagir aussi. Et à chaque émission, j'aurai l'occasion de découvrir aussi une autre personne, un invité qui viendra commenter, témoigner de ses liens avec le basket, qu'il soit joueur, jeune, vétéran, passionné, de tout âge, de toute façon, et de toutes conditions. Ce sera un regard complémentaire qui nous permettra aussi d'avoir des débats enflammés autour de l'histoire, de l'actualité de la NBA. Alors vous avez reconnu le titre, Insane in the Brain de Cypress Hill, qui sera notre générique. Et je vous invite à, pour cette première émission, à vous mettre bien au clair avec... la radio, graphite.net, hein, et 94.9 pour écouter en direct. Vous pouvez aussi podcaster l'émission. Je dis 94.9, mais je pense que c'est bon, hein. C'est bien ça. Oui. Je dis pas de bêtises, je recherche. Mes notes, non, je ne l'ai pas noté. Eh bien, 94.9, on va dire. Voilà. On va pouvoir lancer un petit peu l'émission. Je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est les premières fois, donc ça va tâtonner un petit peu. Première question que je vais me poser à moi-même. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Alors, je suis moi, hein, tout le monde me connaît autour de moi. Je suis tombé amoureux du basket à peu près à ton âge, à peu près à 12-13 ans. C'était en 1992, c'était la Dream Team. Et je pense que pour tout basketteur qui se respecte, c'est forcément une période qui est charnière et qui est une période de révélation. J'ai tapissé à partir de 1992 ma chambre de posters de grands blacks, plus musclés que moi, en espérant atteindre leur taille un jour. J'ai culminé au maximum à 1m71. Et... 1m70, on me signale plutôt. Donc oui, je me suis tassé un peu les vertèbres avec le temps. Et donc, Mathéo, toi, dis-nous un petit peu, toi, comment tu es venu au basket? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que,
Je dirais que c'est plutôt pas un héritage, mais j'ai commencé à m'intéresser au basket... dès l'âge de 4-5 ans à peu près.
Oui, en fait, t'as été un peu forcé parce que ton père t'a mis sur un terrain de basket,
oui, voilà,
c'est ça?
Un peu.
Ouais.
Et puis, j'ai supporté Miami, mon équipe préférée, depuis cet âge-là. Et après, j'ai commencé à en faire en club. Et puis, je continue toujours. Et...
Alors, dis-nous, tu joues
à
un club du coin, à la Croix-Saint-Ouen, d'accord, en U15.
Ouais,
avec, tu veux faire une dédicace avec tes potes ou tes entraîneurs?
Je peux faire une petite dédicace à mon entraîneur Roman, Rémi, Isaac,
Enzo aussi comme entraîneur.
Ah oui, il y a Enzo.
Ouais.
Ils
sont nombreux, hein. Vous êtes nombreux.
Ils sont nombreux. Après, comme coéquipier, Isaac, Lei ou Daifa, Lucas, tout ça.
Ok. Alors, je parlais de la Dream Team tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée un petit peu des joueurs? Tu le sais forcément, mais tu en connais quelques-uns, qui ont composé la Dream Team en 1992, l'année où les Jeux Olympiques de Barcelone se déroulent. Les Américains en ont marre de se faire botter les fesses. Ils ont envoyé quelques jeunes joueurs auparavant, et puis l'année après, en 1988, ils ont pris une rouste et ils décident d'envoyer du matos, c'est-à-dire deux gros joueurs. Est-ce que tu te souviens qui composait cette équipe de rêve ?
Michael Jordan, déjà.
Oui.
David Robinson.
Oui, dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Oui, Scottie Pippen. Il y avait Hakeem Olajuwon.
Ok, alors si je te le fais par devinette, si je te dis que c'était un joueur blanc, pas très beau, mais diablement efficace, très intelligent, très complet. Est-ce que tu te souviens de qui c'est ? Il a terminé d'ailleurs, c'était un peu la fin, le crépuscule de sa carrière, et c'était un grand joueur. Est-ce que tu te souviens de son nom ?
Drazen Petrovic ?
Ah non, équipe des États-Unis. Allez, je te donne un gros indice.
L'équipe des États-Unis.
Eh oui, un Dream Team. Il joue à Boston.
À Larry Bird.
Larry Bird, donc Larry Bird, légende du basket de Boston. Et puis un autre joueur aussi emblématique, parce qu'en fait, finalement, quand on pense à la Dream Team, il y a surtout trois joueurs qui reviennent. Bah, c'est Jordan, tu l'as dit.
Scottie Pippen.
Alors, Pippen, c'était le lieutenant
Charles
un petit
Barclay.
Peu. Alors, Charles Barkley aussi. Non, c'était surtout. Alors, je te donne un autre indice. Il jouait meneur, mais c'était un meneur de grande taille.
Magic Johnson.
Voilà, Magic Johnson. Donc en fait, ces trois joueurs-là qui ont trusté à peu près toutes les bagues jusqu'en 1980. Alors, si on compte Jordan, un petit peu plus loin. Mais Bird et Magic Johnson se sont partagés les bagues dans les années 80, hein, si on schématise un petit peu. Et donc cette équipe, elle avait une particularité, c'est qu'elle accueillait aussi, alors là c'est de la culture générale, un joueur qui était universitaire, c'est-à-dire qui n'était pas professionnel encore, qui se destinait à le devenir, et qui est certainement le moins connu forcément, qui n'a pas fait une très grande carrière. Est-ce que tu sais qui c'est ? Non. Christian Laettner. Christian Laettner, qui avait été à l'époque choisi préféré à un certain Shaquille O'Neal. Excusez du peu.
Ah oui.
Donc voilà, qui a fait quand même partie des médaillés. Alors évidemment, l'histoire est assez connue. Les Américains ont déboulé en 92, ils ont mis des roustes à tout le monde. Je crois que la moyenne de points, d'écart de points pendant tous ces matchs était 40 points. Donc autant dire que c'était une véritable boucherie, mais c'était surtout un spectacle. Et puis ils ont amené, par leur talent, leur facilité, balle en main, etc., le basket au devant de la scène, qui est devenu à partir de ce moment-là un sport ultra populaire en Europe aussi. Qui était encore un continent à conquérir. Voilà, alors, on a parlé un petit peu de 1992. En 1992, moi, je sortais d'une boom, hein, de cinquième. On passait des slows. Il y avait Elton John, qui, je crois, chantait Sacrifice. Et je ne vais pas vous faire l'affront d'écouter ce titre. Mais pendant la boom et pendant les slows, puisque je vous mets au défi de danser sur ce titre, pendant les slows, il y avait une vidéo qui tournait en fait dans la boom. On avait fermé les volets évidemment pour qu'il fasse noir, pour créer une ambiance de nuit complètement artificielle. Toi, ça te fait rire, hein, parce que tu n'as pas connu les booms forcément, hein ? Mais tu les connaîtras peut-être jamais. Et donc, sur la télé qui passait, on avait coupé le son de la télé, et il y avait un match qui passait. Ce jour-là, je suis retombé sur le match, un match des finales. Je crois que c'était le premier match des finales entre les Los Angeles Lakers de Magic Johnson contre Michael Jordan et les Chicago Bulls. Et en fait, comme je n'avais pas trop envie de danser, j'ai commencé à regarder ce match et je suis tombé vraiment... je dirais sous le charme, mais j'étais très impressionné par ce que je voyais à l'image. C'est un type avec le crâne chauve, comme moi maintenant, avec un peu plus aérien que moi, bizarrement, qui s'envolait, qui changeait de main en l'air, qui restait une éternité en l'air, Air Jordan, et qui allait remporter ce premier match, et qui finalement, de toute façon, remporterait le titre cette année-là. C'était son premier titre. On était à l'époque du premier numéro de 5 majeur. Tu connais ?
Ouais.
Ça existe toujours ? Explique-nous ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
5 majeurs, c'est un magazine qui parle des joueurs, du basket, de l'NBA, enfin c'est que de l'NBA.
Ouais.
Donc ça raconte les anecdotes des joueurs, les actualités sur l'NBA.
Tu lis, toi ?
Ouais, je
un lecteur.
Je fais la collection un peu des 5 majeurs. Et du coup, ça parle des joueurs, de leur histoire...
Ok, alors, je te parle de 5 majeurs. Le premier numéro de 5 majeurs, je ne l'ai pas eu, c'était celui en couverture. On voyait justement la Dream Team américaine avec, tu en as parlé, hein, David Robinson, Chris Mullin, j'en donne quelques-uns, Clyde Drexler, effectivement, Patrick Ewing, je vais en oublier forcément parce que c'était une armada de légendes, John Stockton, Karl Malone, dont on pourra parler plus tard. Mais à cette époque-là, en 1992, on écoutait aussi, il y avait un groupe qui émergeait, enfin, qui cartonnait, on peut dire. C'est un certain groupe, un Kurt Cobain, qui nous proposait Lithium de Nirvana, qu'on va écouter tout de suite. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God.
Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke arm is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God.
Je ne vais pas jusqu'au bout de ce titre magnifique. Vous vous étonnez peut-être en vous disant « Ouais, mais bon, c'est du basket, ça devrait passer de la culture hip-hop. » Alors je laisse le soin à Rémi, pour l'émission qui suit, de nous parler justement hip-hop. Mais moi, j'estime qu'on peut jouer au basket et écouter du rock aussi. Donc voilà. Alors, on revient sur notre sujet principal, hein, savoir la NBA. Et pour commencer justement de passer en crible un petit peu la ligue, aujourd'hui, on va écouter Mathéo nous parler d'un joueur de cette époque dont on a parlé, qui s'appelle, Mathéo, dis-nous un petit peu.
David Robinson.
David Robinson. Alors, parle-nous un petit peu de David Robinson. Qui est ce type ? Certainement grand. Certainement grand.
Oui.
Oui, tu peux nous donner sa taille ?
2m15.
Beau bébé.
Oui.
Talentueux, j'imagine aussi, parce qu'on n'en parlerait pas sinon dans cette émission.
Très, ouais.
Très talentueux. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu qui est le numéro 50 des San Antonio Spurs, qui fut mon premier joueur préféré en NBA.
Alors, David Robinson, aussi appelé l'amiral, c'est le surnom qu'on lui donne. Il fait partie de ces joueurs emblématiques des années 90 qui ont composé la Dream Team.
Dont on a parlé.
Donc, il est né en 1965 en Floride, donc là où il y a ton équipe préférée.
C'est un avis.
Et il fit ses premiers pas sur les parquets NBA en 1989.
Ok, alors explique-nous pourquoi. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante avec David Robinson, c'est qu'il a été drafté, c'est-à-dire choisi par une équipe en sortant de l'université en 1987. Mais il va rejoindre la NBA seulement en 1989. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, d'où le surnom Amiral, il a été dans la marine deux ans.
Il a été engagé dans la marine.
Il a été engagé dans la marine pendant deux ans. Et du coup, il n'a pas pu aller... quand il a été drafté en 1987, il n'a pas pu...
Rejoindre la ligue.
Rejoindre la ligue.
Voilà, il devait faire son service militaire et donc du coup il a fait saliver.
Deux ans.
Voilà.
Et il est arrivé en 1989.
D'accord. Alors David Robinson, ça va être un joueur qui va avoir un impact énorme. C'est-à-dire que quand il est arrivé, alors il joue pivot. Alors pour ceux qui connaissent pas le basket, le pivot c'est le plus grand. C'est celui qui est censé dominer par la taille, aller près du panier. Hein, marquer des paniers près de l'arceau et capter les rebonds, mettre des contres, donc c'est une arme aussi de dissuasion, de pivot. Alors ce joueur, il va avoir un impact immédiat parce que les Spurs, avant qu'il arrive, c'est un petit peu les cancres de la NBA, un petit peu comme aujourd'hui. Hein, on parle de Wembanyama qui arrive au San Antonio Spurs. C'est, le contexte est à peu près identique. C'est une équipe de losers et quand David Robinson va arriver, qu'est-ce qui va se passer forcément?
Eh ben, San Antonio va monter d'un niveau.
Ouais, tout à fait.
Donc, il est doté d'un physique quand même hors norme, quand même. On peut le comparer avec celui de Antetokounmpo aujourd'hui.
Ouais, Giannis Antetokounmpo, donc le Greek Freak.
Donc, il s'est imposé rapidement.
Très rapidement.
Très rapidement. Ouais. Et il avait pourtant de la concurrence en face de lui, parce qu'à l'époque, il y avait la Dream Team... Enfin, quand il est arrivé, il y avait déjà Michael Jordan qui jouait,
ouais,
il y avait tous ces joueurs-là.
Oui, alors c'est un petit peu l'âge d'or de la NBA, cette époque-là. On parle de Dream Team, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, dans chaque équipe NBA, on a un joueur, deux joueurs, parfois, trois, c'est beaucoup plus rare, mais ultra dominant. Et à l'époque de David Robinson, les grands, les pivots qu'on a en face de lui, c'est qui ?
C'est Hakeem Olajuwon.
Voilà, donc grande légende dont on parlera forcément.
Ouais. Hein. Ou bien il y a encore en grand...
Alors celui des New York Knicks.
Ah, Patrick Ewing.
Patrick Ewing, d'accord, dit surnommé The Beast. Ça vous donne un petit peu une idée de,
après,
du genre de physique.
Après, il y avait des grands costauds aussi. Karl Malone était assez costaud. C'était pas un pivot.
C'était un ailier fort, effectivement, on l'appelait le facteur, de Mayman.
Ouais.
Donc, joueur très physique. David Robinson, effectivement, tu l'as bien dit, il est un peu comparé aujourd'hui physiquement à Giannis Antetokounmpo. C'est une armoire, il fait 2m15, 2m16, on n'est pas trop clair là-dessus. Par contre, il est ultra musclé, ultra athlétique. Et puis, chose assez étonnante à l'époque, il est doté d'un shoot, c'est-à-dire qu'il peut s'écarter.
Ouais.
C'est un redoutable contreur. Tu peux nous donner ses stats en carrière? Tu les as notées ou... David Robinson.
David Robinson. Non, je les ai pas notés.
Tu sais à peu près quoi. Alors, en points, sachant que Michael Jordan, c'est à peu près, allez, pour les néophytes, c'était une trentaine de points par match, ce qui était énorme à l'époque parce qu'on marquait beaucoup moins. David Robinson, c'est à peu près, tu sais à peu près, sur les saisons normales.
Je pense entre 25 et 30 points.
Oh, c'est 25 points, c'est 25 points de moyenne, d'accord, ce qui est énorme, hein, ce qui est beaucoup. Combien de rebonds en moyenne?
Je crois que c'est plus de 10.
Oh, c'est presque 12, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et alors, là où il est très impressionnant, c'est au niveau des contres.
Je crois qu'il a plus à 4.
Ouais, à presque 4 contre. Ouais, dans ses grandes saisons, il a plus de 4 contres de moyenne, donc c'est vraiment un joueur qui ferme la raquette. C'est-à-dire que quand t'as un grand comme ça, qui est aussi dissuasif, t'es obligé de mettre tes shoots à l'extérieur. C'est-à-dire t'es obligé de tirer de loin pour pouvoir avoir une chance de remporter le match. Et si ça s'avère que tes shoots rentrent pas, c'est encore le cas dans le basket moderne aujourd'hui, et forcément t'es dans la passe parce que c'est le type de configuration qui te ferme complètement le jeu. Alors, on a parlé de David Robinson. David Robinson, il va faire une grande carrière. C'est pourtant un gentil dans le monde de la NBA. On parlera un petit peu des méchants, justement. Il va pas gagner beaucoup de titres en fait individuels tout seul. Quand je dis tout seul, il était forcément avec une équipe autour de lui. Mais les San Antonio Spurs, ils vont se contenter longtemps de faire les playoffs. Hein, et ils vont les faire assez régulièrement tant qu'il est là. Mais par contre, quand il faudra passer aux choses sérieuses, quand on arrivera dans ce qu'on appelle le Money Time, le nom de cette émission, c'est-à-dire les derniers instants d'une rencontre qui décide justement de l'issue de cette rencontre, bah David Robinson, il a tendance quand même un petit peu à baisser d'un cran. Et il y a des joueurs beaucoup plus impressionnants que lui dans ce domaine-là, plus décisifs. Alors on parle de Jordan, évidemment, parce que Jordan, quand le match comptait se décider, c'était là qu'il devenait un prédateur. Mais même Hakeem Olajuwon, on a parlé de pivot tout à l'heure, Hakeem Olajuwon va faire plusieurs misères à David Robinson. Et il faudra attendre le crépuscule de sa carrière, c'est-à-dire 1999, pour qu'il y ait un autre joueur qui arrive, qui vienne l'épauler et qui prenne même le lead, qui devienne le leader des Spurs. Ce joueur, est-ce que tu sais qui c'est? On les appelle d'ailleurs les tours jumelles.
C'est Tim Duncan.
C'est Tim Duncan, exactement. Donc Duncan va arriver.
Et puis, il est arrivé en 97.
Je crois, alors je ne sais plus exactement quelle année. Toujours est-il que quand Duncan va arriver, au bout de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ils vont gagner le titre. Les deux joueurs vont combiner ensemble, vont devenir une menace trop importante, en tout cas décisive. Et puis, il va gagner un deuxième titre aussi. Je crois, si je ne dis pas bêtise, il va gagner 2 titres.
Avec Tony Parker.
Avec Tony Parker. Donc, c'est la fin de David Robinson. C'est le début de l'arrivée. C'est l'arrivée de Tony Parker qui coïncide justement avec ce deuxième titre. Mais il laissera un souvenir d'un gentleman. C'était un gars qui était très pieux, très croyant. Ça dénotait un petit peu à l'époque de Magic Johnson où les basketteurs de NBA, pour beaucoup, menaient une vie de débauche. C'était quelqu'un qui était profondément gentil, hein, il n'y avait pas d'animosité, qui a été longtemps critiqué aussi pour ça, parce qu'on le jugeait pas assez méchant, entre guillemets, pour pouvoir s'imposer, à une époque où il y avait quand même les Bad Boys de Détroit. Hein, donc, et puis, il prendra sa retraite tranquillement, il va devenir, il va rentrer au Panthéon du basket, le Hall of Fame. Et voilà pour David Robinson, tu nous as appris plein de choses, donc je te remercie. Et on va enchaîner avec un titre. Je vous rappelle de nous écouter, que vous écoutez Graphite sur graphite.net et sur les ondes au 94.9. Et vous pouvez toujours écouter évidemment cette émission en podcast sur le site graphite.net. Allez, c'est parti avec le titre. Un titre que vous allez reconnaître.
Wasted.
On est de retour après ce titre de Depeche Mode, Ghost Again, sur leur dernier album. En 1992, c'est aussi la période de Depeche Mode. Hein. Faut que nos jeunes auditeurs sachent ce qui se passait à cette époque-là. Musicalement, c'était quand même une référence, elle sait toujours, même s'ils vieillissent un petit peu maintenant. On est de retour et aujourd'hui, donc dans cette émission, cette première de Money Time, on va évoquer, puisque vous savez que la NBA, ça reprend, tu sais à peu près quand, Mathéo ?
Fin octobre.
Fin octobre, ouais, c'est ça. Donc on a encore un bon mois à tirer avant de pouvoir s'extasier devant les highlights, les top 10 et les résumés de match hein, de la NBA. Et donc comme on est à un mois du début de la saison régulière, on va rappeler un petit peu comment ça se passe. On a une saison régulière qui dure 82 matchs, des équipes qui s'affrontent, qui sont réparties en deux conférences, Est et Ouest. Hein, et donc ces équipes, à l'issue des 82 matchs, elles sont classées, il y a un classement. Et il y a alors par la suite un tableau éliminatoire. Ouais. Je sais pas, il y a du bruit, on entend, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas grave. On a un tableau éliminatoire qui fonctionne sur le système de celui qui a été. Alors, les 16 premiers, les 16 meilleures équipes sont qualifiées pour les playoffs. Et les équipes éliminées, forcément, arrêtent leur saison. Et on a un système de confrontation qui fait que le premier de chaque conférence affronte le dernier qualifié des playoffs. Hein. Donc on a du seed, ce qu'on appelle numéro 1, jusqu'au numéro 8, et ainsi de suite. Alors cette année, c'est le championnat NBA, les playoffs NBA ont été super intéressants à suivre parce qu'au premier tour, on assistait quand même à des grosses surprises. Est-ce que tu as la première grosse surprise, elle te vient en tête ? Est-ce que tu te souviens ce que c'est ?
Les premiers de l'Est, ils se sont fait battre par Miami.
Voilà, alors les premiers.
Les premiers de l'Est, c'est Milwaukee. Et ils se sont fait battre 4-1 par Miami.
Attends, très bonne mémoire. Donc en fait, les gros favoris à l'Est se sont fait déboîter par notre équipe préférée. Donc c'est l'occasion de parler. 4 matchs à 1. C'était la deuxième fois dans l'histoire de la NBA, je crois que... Non, c'est pas la deuxième fois, c'est 3 ou 4 fois, je crois que le premier se faisait sortir par le 8e. Ce qui est étonnant dans cette confrontation, c'est que personne voyait le Heat. Ils ont navigué, ils ont péniblement réussi à se qualifier en play-off. Ils sont passés par ce qu'on appelle le play-in, qui est encore un match couperé qui permet justement de se qualifier. Et puis après, le Heat a tapé les Bucks. Dans ce premier tour à l'Est, on peut noter aussi alors, la victoire de New York qui n'était pas forcément attendue contre Cleveland. Et là, on s'est dit, New York, formidable, ça revient, ça rejoue au basket. La mecque du basket revient au premier plan après des années de vache maigre. Les Sixers qui ont démoli les Nets de Brooklyn, qui étaient en reconstruction, hein, Kevin Durant venait de partir. C'était prévisible, mais on s'est dit, Philadelphie cette année avec Joel Embiid, ça va le faire. Hein. Et puis... on avait les Celtics de Boston qui, eux, c'était pas attendu, mais ils ont vachement galéré contre les Atlanta Hawks. On s'est dit, ils sont pas super sérieux, les Boston Celtics, ils prennent pas leur adversaire au sérieux. Et ça s'est ressenti puisqu'ils ont perdu 2 matchs.
Je précise juste que si Miami a gagné, c'est grâce à un certain Jimmy Butler.
Alors, Jimmy Butler, on va en reparler parce qu'il y aura forcément une émission dessus.
Qui a fait la 4e plus grosse performance de l'histoire en play-off.
Voilà, il a marqué, tu te souviens combien ?
56 points.
Alors, je ne sais plus dans quel match c'est, mais effectivement,
c'était
le match numéro 2 ou 3.
Le troisième match. Il a mis 56 points.
Ouais, avec une ligne de stats démentielle. Donc, Butler, il va éclabousser. Je crois qu'il a fini à presque 38 points de moyenne sur la série. C'est pas un gros scoreur, en fait, Jimmy Butler, pour expliquer les choses aux gens, mais il faudrait écrire un livre sur sa vie. Ce que je pourrais faire un jour si j'ai le temps. Mais Jimmy Butler, c'est un joueur qui est un peu sous-coté. C'est-à-dire que pendant la saison régulière, le type, il est à 22 points de moyenne, ce qui est bien, hein, très très bien. C'est une star. Hein. Il doit être à 6 rebonds, 5 passes. Mais quand il arrive en play-off, c'est un mec qui devient complètement injouable. C'est-à-dire, il défend comme un fou, il est clutch, c'est-à-dire il est décisif. Et puis, c'est lui qui va porter effectivement Miami sur les 2 premiers tours. Hein, parce qu'on a parlé donc de New York. Au tour suivant, Miami va sortir New York assez facilement. Butler va se faire mal à la cheville, mais il va rester pas forcément sur les mêmes performances, mais il va éclabousser encore le deuxième tour de tout son talent. On passe de l'autre côté. on va franchir l'autre conférence, c'est-à-dire qu'on va passer à l'Ouest avec, est-ce que tu te souviens, Denver qui va affronter donc Denver Nuggets, les Denver Nuggets qui font figure quand même de parmi les favoris à l'Ouest, qui vont affronter les Minnesota Timberwolves. Tu te souviens du score?
Je me souviens plus du score. Je sais qui a gagné, mais je me souviens plus du sport.
Donc,
du score.
Qui va gagner?
Denver.
Denver qui va gagner 4-1. Hein, les Suns de Phoenix affrontent les Clippers. Il n'y a pas photo. Kevin Durant, Devin Booker. Voilà, c'est trop costaud. Plus Chris Paul, hein, si je ne dis pas de bêtises. 4-1 contre les Clippers. Les Kings qui sont de retour en playoff après, je crois, plus 16 ans ou 17 ans d'absence. Affrontent les Golden State Warriors qui font figure aussi d'épouvantail, hein, franchise, ouais. Équipe archititrée au cours des années précédentes et qui sont à nouveau au complet. Il va y avoir 7 matchs, hein, ça va finir vraiment. Je rappelle que pour franchir le tour suivant, il faut gagner. C'est la première équipe qui remporte 4 matchs. La première équipe à 4 matchs. Donc là, c'est Golden State qui va s'imposer 4-3, mais vraiment souffrant. Et les Lakers vont écarter une équipe jeune et qui est censé tout casser, les Memphis Grizzlies, 4-2, avec des polémiques autour de la jeune star des Grizzlies, Ja Morant, dont on parlera aussi par la suite. Donc ça, c'était le premier tour. Au deuxième tour, on repasse à l'Est, donc on a parlé de New York qui va se faire sortir par Miami. Les Celtics vont s'imposer 4-3, vraiment ric-rac, mais vont s'imposer facilement sur le dernier match, grâce à 50 points, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de Jason Tatum. Donc, nouvelle désillusion pour Philadelphie. Hein, une équipe un petit peu qu'on annonce toujours meilleure. Alors que derrière cette élimination, évidemment, l'entraîneur va gicler, Doc Rivers. Et puis, ça va chambouler un petit peu à nouveau les projets de gloire de Philadelphie. Les Nuggets affrontent les Suns. Et là, on se dit vraiment qu'on va avoir une grosse opposition. Et c'est ce qui va être le cas pendant plusieurs matchs. Mais Denver va s'imposer par son collectif 4-2 sur les individualités de Phoenix. À savoir, deux joueurs qui vont vraiment cartonner pendant toute la série et qui ont cartonné pendant le play-off, qui sont...
Nikola Jokic.
Non, alors, Jokic va cartonner effectivement pendant tous les play-offs. Ça, c'est pour Denver. Je te parle des Suns.
Ah, tu parles des Suns. Ouais. Devin Booker.
Monstrueux. Hein, il rate quasiment rien pendant toute la série.
C'est vraiment... le retour de Kevin Durant, il a vraiment très bien joué dès qu'il est revenu. On ne l'attendait pas. Surtout Chris Paul aussi.
Chris Paul ne va pas faire une énorme série, mais c'est vrai que normalement, avec un Kevin Durant en feu et un Devin Booker en feu, normalement, tu gagnes contre n'importe quelle équipe. Ces deux joueurs qui sont tellement talentueux. Offensivement, c'est parmi les joueurs les plus talentueux de la Ligue. Tu devrais passer. Sauf qu'il se trouve qu'à Denver, il y a cet ogre serbe, l'ogre serbe, Nikola Jokic, une espèce d'usine à basket incroyable. Ce mec qui a une tête de tueur du KGB, qui saute à peu près aussi haut que moi, c'est-à-dire il doit avoir une détente de 3 cm, qui paraît pas tôt, mais alors qui a une vision du jeu absolument incroyable et qui sait absolument, avec à peu près 10 minutes d'avance, ce qui va se passer sur un terrain de basket. Donc Jokic va déboîter à lui tout seul quand même, et bien appuyé par ses lieutenants. Hein, Denver, attention, hein, c'est pas l'équipe d'un seul homme, c'est vraiment un collectif. Ils vont gagner 4-2. Et de l'autre côté, les Lakers vont gagner contre les Golden State Warriors. Alors, c'est fin de cycle pour Golden State. Il s'est passé des choses en interne dont on pourrait reparler quand on reparlera des méchants en NBA. Mais les Lakers se passent. On se retrouve avec en finale de conférence un Heat contre Celtics, donc Boston contre Miami, qui forcément est une confrontation remarquable parce que les équipes s'affrontent depuis plusieurs années. C'est toujours très serré. Tu voulais dire quelque chose, Dani?
Bah, du coup, Miami, ils ont commencé par gagner le premier match.
Ouais.
Ils ont gagné le deuxième, le troisième. Là, on s'est dit, c'est plié pour Boston.
C'est vrai que tout le monde était étonné. Hein. Tout le monde voyait Boston passer. Encore une fois, Miami déjoue les pronostics. Et qu'est-ce qui va se passer, malheureusement?
Boston a gagné le quatrième match, ouais. Le cinquième match, le sixième match, qui nous est 3-3.
Donc, match décisif, quatrième match.
Là, on avait vraiment peur pour Miami. Enfin, c'était... Voilà,
nous, en tant que fans, hein, on ne respirait plus, on était en PLS à la maison. Et ouais, t'as raison. Donc.
Et donc, du coup, Miami a quand même gagné le quatrième match.
Donc ils s'imposent, ils vont en finale NBA. Chose impensable, c'est la première fois qu'une équipe qui termine 8e, enfin en tout cas sur le classement des playoffs, va se retrouver en finale NBA. On se dit, alors tout le monde est blessé, hein, parce que c'est, le basket de Miami, c'est un basket total, hein, c'est très exigeant, c'est de la défense, c'est rugueux, et donc forcément il y a des blessures. On se dit qu'ils vont être rusés, que ça risque d'être compliqué contre Denver, qui eux, alors, ont atomisé les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis, hein, donc pas des... Voilà, pas les perdreaux de l'année. Ils vont vraiment les exploser, quoi. Il n'y a pas photo. Et cette finale NBA, alors moi, me laisse sur la fin. Hein. On va voir, tout le monde le sait, c'est Denver qui va s'imposer 4-1. Miami est au bout de souffle, est à bout de souffle, vraiment. Ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec un effectif qui n'était quand même pas programmé pour la gagne. Ils vont s'imposer. Et puis, c'est Denver qui va, alors, qui fait un magnifique champion, franchement. C'est la victoire, alors j'ai envie de dire que déjà les deux finalistes qui n'étaient pas attendus, c'est la victoire du collectif par rapport au basket individualiste qu'on peut toujours, enfin que certains déplorent, voir en NBA. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah oui, moi aussi je suis d'accord avec toi.
C'était, on a vu des grands joueurs, hein, on a parlé de Butler, de Jokic, et ces joueurs-là sont capables de s'effacer pour la gagne en fait, pour faire briller leur coéquipier. C'est vraiment... une caractéristique de ces playoffs, en tout cas 2023, qui se termine par le sacre de Denver, premier titre de l'histoire de la franchise, donc c'est quand même quelque chose. Et bah franchement, c'était très très sympa à voir, et même moi en tant que fan de Miami, bah je trouvais que c'était pas volé, et que c'était amplement mérité, il faut savoir reconnaître sa défaite. Voilà, on écoute un dernier titre avant de clore cette émission, avec un type que j'aime bien, qui a une voix de vieux aussi. Je dis aussi parce que je pense que cette première émission, je devais avoir la voix un peu chevrotante. Il s'appelle Bertrand Belin, vous l'entendez souvent, je pense, sur Graphite, mais c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Ça fait pas du tout basket, hein. Je vous préviens tout de suite.
Autour du soleil.
Merci Bertrand pour cette intervention vraiment à propos. Toi tu souris parce que tu estimes peut-être que les paroles de cette chanson sont bizarres, c'est ça ?
Ouais, très.
Très bizarre, ouais. Et pourtant je pense qu'il y a un message philosophique fort derrière. Mais je te laisserai travailler, c'est lire les paroles et les méditer. Avant de terminer cette émission, une dernière question pour finir. Alors, c'est le débat de la... Vous savez, quand j'essaierai de poser, je vous en ai parlé, une question importante, fondamentale, liée au basket. La question du jour, c'est faut-il être méchant pour être un winner ? Alors, avant de te poser la question, Léon, déjà, est-ce que tu es méchant, toi ?
Non, ouais. Je pense pas que je suis méchant.
Ta sœur dirait le contraire. Non. Faut-il être un méchant pour être un winner ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que je vais te donner quelques exemples de joueurs et tu vas me dire effectivement ce que tu en sais et si c'était vraiment des méchants, on en parlera un petit peu parce que c'est quand même un carnaval là, qu'on va faire d'affreux qui ont marqué l'histoire de la NBA. Jordan, méchant ou pas méchant ?
Je pense qu'il était méchant.
Ouais. Alors, Jordan, je pense que...
Parce que... on le voit, enfin... Moi, j'ai regardé la série The Last Dance, où ça montre du coup toute sa vie, ça retrace toute sa vie,
sa carrière
ouais. Plutôt. Et
avec un point de vue quand même très orienté, hein, parce que c'est quand même Jordan qui a choisi aussi ce qu'on y mettait dedans.
Ouais. Mais du coup, on peut voir quand même qui cherche aussi à déstabiliser ses adversaires en match. Il essaye de les faire craquer psychologiquement.
Ouais. Comme toi avec ta sœur, c'est vraiment... Il y a une belle
Il essaye de prendre le dessus sur eux.
Ouais. Il les impressionne, il les chambre. On voit que Jordan était très dur avec ses coéquipiers. Et d'ailleurs, il a inspiré un joueur qui, par mimétisme et entre guillemets la version... la deuxième version de Michael Jordan, c'est...
Kobe Bryant,
hein, qui a singé. Alors moi, attention, respect immense pour le joueur Kobe Bryant, même si pour moi, il n'y a qu'un Michael Jordan, et je pense qu'on pourra avoir un jour sur cette antenne le débat classique, qui est le plus grand joueur de tous les temps ? Est-ce que c'est Jordan ? Est-ce que c'est LeBron James ? Est-ce que c'est Bill Russell ? Il y aurait débat. Mais Kobe Bryant, il a singé Jordan, même dans son approche comme ça de ses coéquipiers et des adversaires, où le but, c'était en fait d'être le mal alpha. Il y a des joueurs comme ça qui sont connus pour ce côté arrogant, sûr d'eux. Alors, c'est plus facile d'être arrogant quand tu assures sur le terrain. Je pense que pour Michael Jordan, il n'y a pas trop de doute dessus. Pour Kobe Bryant, non plus. D'autres méchants dont je te parle, Larry Bird.
Ouais, très méchant. Il est très méchant, lui.
Très méchant.
Parce que j'ai vu dans la série, il disait, Michael Jordan aussi... À l'entraînement, mais même dans le match, il les chambrait, il faisait des blagues un peu limites sur les joueurs. Il les chambrait en disant que de toute façon, s'il le ratait, enfin, il les menaçait que s'il ratait, par exemple, il lui donnait de l'argent et tout. C'était un peu des...
Alors, c'est du trash talking. Il y a quand même une fois, une anecdote où Larry Bird, il joue contre un gars et il lui dit « Comme t'es sympa, ce soir, je vais jouer que d'une main. Je vais te mettre la misère que d'une main. » Et je crois qu'il a joué que de sa main gauche ou de sa main droite, enfin une des deux mains. Il a pas utilisé ses deux mains. Et je crois qu'il a massacré le gars. Donc, bon, un vrai méchant. Draymond Green.
Ouais, joueur des Golden State Warriors.
Très, très, très méchant. Donc, on a parlé tout à l'heure.
Et pas qu'avec ses adversaires.
Exactement, puisque cette année, il y a eu l'affaire avec Jordan Poole.
De toute façon, il s'est barré, alors.
Alors, il a quand même collé une tarte
à un de ses
coéquipiers, on ne sait pas trop pourquoi. Mais Draymond Green, voilà, c'est une grande gueule. Il est toujours en train d'ouvrir sa bouche face aux arbitres, face aux adversaires. Hein. Des gestes parfois un petit peu limites. C'est Draymond Green. Isaiah Thomas, des trois Pistons. Alors, des trois Pistons, attention, on pourrait faire une émission, et on fera une émission spéciale dédicace à Mehdi, qui est un grand fan des trois Pistons. L'équipe des années 90, et même celle des années 2000, enfin, en tout cas, ceux qui ont été champions en 2003 ou 2004, je ne sais plus, je pense qu'on peut la mettre au panthéon aussi de la méchanceté, et voilà. Les Bad Boys de Détroit, leur représentant ultime, c'était Isaiah Thomas. Mais tu peux compter aussi d'autres joueurs. Tu en connais des joueurs de cette équipe-là qui ont... Alors, de toute façon, c'était pas compliqué. Hein. Ils arrivaient sur le terrain, les supporters, il y avait un type qui passait avec un drapeau de pirate, une grosse tête de mort, qui annonçait la couleur à l'équipe adverse. Donc, les gens allaient à Auburn Hill, le palace d'Auburn Hill, c'était la salle des Detroit Pistons, qui était une salle aussi mythique, avec la boule au ventre, parce que tu prenais des coups pendant tout le match. Jordan s'est heurté pendant longtemps aux Pistons, il va finir par les vaincre. Au bout de deux ou trois confrontations. Mais les joutes entre Jordan et toute l'équipe, hein, parce que tout le monde passe sur Jordan, hein, ils essaient tous de le tabasser. Tu te souviens de quelques joueurs qui en faisaient partie?
Déjà, Zaya Thomas.
Ouais.
Je sais que Dennis Rodman,
il en a fait partie.
Pas très longtemps, mais il en a fait partie.
Ouais.
Ben Wallace, c'était
plus
tard.
Ben Wallace, c'est après, c'est en 2003-2004. Mais
ouais.
c'est vraiment des bad boys des années 90.
Alors, un grand blanc,
ouais.
Mais je sais pas comment il s'appelait.
Il s'appelait Bill Laimbeer.
Ah oui, c'est
Bill Laimbeer. Donc un vrai boucher. Hein.
C'était le pivot du 5 majeur.
Voilà. Allez voir les highlights de Détroit à cette époque-là. Vous verrez, les coups sont plus spectaculaires que les actions encore. Il y a Rick Mahorn, John Sally, mais bon, ça a été là. Les Pistons, c'est une équipe à part. Et puis quelques méchants aussi. Un méchant quand même qui a plus marqué les années 2000, un grand longiligne qui a longtemps joué à Minnesota et qui a fini à Boston. Bon, puis après, il a fait quelques équipes, mais c'est
Kevin Garnett.
Kevin Garnett, qui était une très très grande gueule, qui était un vrai furieux, mais qui était... Alors, on a cité tous ces joueurs, évidemment, on ne peut pas les résumer simplement de la méchanceté, à de la niaque. C'était des joueurs excellents, hein, mais qui avaient un état d'esprit qui était à l'opposé de certains dont on pourrait parler. Un contre-exemple, est-ce que tu as un exemple de gentil aujourd'hui en NBA, de bisounours, ou au travers le temps, des mecs qui sont sympas et qui gagnent, et qui donc nous prouveraient qu'en fait on peut être sympa et être gagnant. Parce que les types dont on a cité le nom tout à l'heure, Jordan, Larry Bird, Raymond Green, Isaiah Thomas, Kobe Bryant, Garnett dans une moindre mesure, c'est quand même des types qui ont ramassé des titres à l'appel quand même. Donc a priori, ça accrédite la thèse de il faut être méchant pour gagner. Mais des gentils, t'en connais ?
Des forts et gentils. Nikola Jokic,
ouais,
il est gentil.
Alors,
après, il s'est énervé plusieurs fois. Enfin, il s'est énervé quelques fois.
Oui. En fait, c'est plus ses frères à Jokic, hein, qui sont dangereux. C'est de repris de justice serbe qui régulièrement intimident les adversaires de Jokic, ouais, quand il y a un contact, etc. Donc, Jokic, c'est un vrai gentil.
Après, Antetokounmpo, il n'est pas méchant non plus. C'est un monstre.
Alors, c'est marrant parce que tu parles d'Antetokounmpo dans la foulée. Il y a un truc rigolo avec ces deux joueurs, c'est que ils sont double MVP, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ils ont gagné deux fois le trophée de meilleur Most Valuable Player, ça veut dire meilleur joueur de la NBA. Et c'est deux types qui considèrent que le basket n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que Jokic, il dit que c'est son boulot, mais qu'il n'aime pas plus que ça. Voilà. Et Antetokounmpo, il dit que pour ses enfants, pour sa famille, il pourrait très bien arrêter le basket du jour au lendemain. Alors, moi, si je pourrais très bien le dire la même chose. Si je gagnais le même pognon qu'eux, hein, parce qu'ils ont quand même des contrats mirobolants, c'est plus facile de dire moi, je peux arrêter quand je veux, quand on a l'argent qui permet de le faire. Mais c'est assez notable chez ces deux personnes qui ne mettent pas le basket en fait, au-delà de tout et qui n'en font pas une raison de vivre. Je veux bien aussi nous entendre ça. Et d'autres gentils, allons-y. Non ? T'en as cité un tout à l'heure, tu nous l'as présenté.
David Robinson, mais tu me parlais actuellement, du coup.
Ah oui, donc.
Moi, je prenais actuellement.
Alors, un dernier actuel qui est, entre guillemets, on l'appelle Babyface, parce qu'il a une tête de gentil garçon. Et c'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs, si ce n'est un des 5 meilleurs ou 3 meilleurs, ou enfin, dirais le meilleur même.
Actuellement. Il joue à Golden State.
Il joue à Golden State.
Bah, Stephen Curry.
Ouais, Stephen Curry. C'est un type aussi très sympa. Hein. Il a l'air de se prendre la tête. Après, on aime ou on n'aime pas le joueur, mais c'est quand même un... On a eu Magic Johnson qui souriait tout le temps. Bon, Magic Johnson, c'est un faux gentil, moi, je pense. Hein. J'ai une autre théorie là-dessus. On pourrait signaler mon joueur préféré. Je le dis, et c'est, tiens aussi, c'est Dwayne Wade, qui était quand même un mec plutôt sympa aussi. Je pense que... Et qui nous montre qu'on peut gagner au basket en étant sympa. Et enfin, pour terminer, y a des types qui sont ni sympas, et qui sont ni méchants. C'est une catégorie à part. On va les appeler les cyborgs. C'est des robots, c'est-à-dire des mecs qui montrent rien sur un terrain. Alors, tu en connais, forcément.
Bah, actuellement, il y a Kawhi Leonard.
Kawhi Leonard, c'est la joie de vivre exprimée. Je pense qu'il a subi une ablation des sentiments dans le cerveau. Hein, donc, un type qui... Alors, il, sur un terrain, c'est pareil, c'est une machine aussi. Hein. Il est très, très souvent blessé, mais je crois que même sa mère n'a jamais vu sourire. En fait. Et encore un, peut-être. Il joue plus.
Tim Duncan.
Ouais, Tim Duncan, c'était pareil. Tim Duncan, ouais. Hein, c'était pas de sourire, c'était pas de sang. Alors, d'une efficacité diabolique, hein, mais pareil, franchement, je crois que tu lui aurais montré un bébé chat, tu lui aurais présenté un bébé à un chaton, dans un couffin, je pense qu'il en avait rien à foutre. Il ressentit rien au fond de son cœur. Il est vide comme moi. Voilà. On a terminé le petit tour de cette question. Notre émission se termine. Je te remercie, Mathéo, parce que tu m'as bien épaulé pour cette première émission. Tu reviendras parce que tu nous parles encore de joueurs mythiques. Tu souhaiterais faire une dédicace avant de clôturer cette émission ?
J'en ai fait au début.
Oui. Alors,
je peux en refaire.
Ta famille, tes amis hein.
À toute ma famille, déjà.
Ouais.
Toute ma famille, donc... Et puis à mes amis aussi, tous mes amis du basket,
d'accord.
De la Croix. Tous les joueurs de la Croix, du coup.
Ouais, avec qui t'es pas une belle ouais. ambiance à la Croix.
Ouais.
Moi, je fais un petit clin d'œil à Rémi, qui enchaîne avec l'émission suivante. Très sympa. Vous ne connaissez pas sous le nom de Rémi, mais ce n'est pas grave, j'ai balancé son vrai nom. C'est comme Peter Parker, hein, il va être démasqué maintenant. Moi, je fais une petite dédicace à ma petite femme, à Julia, donc ta petite sœur, qui est aussi ma fille. Et puis à toute la famille Lagana et Gomez. Voilà. Oh, j'ai balancé les noms aussi, j'aurais pas dû, j'ai fait de la pub. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission, sous 15 jours certainement. Donc allons-y.
stop now, won't let go. All this love will be in vain. Ooh, 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 ooh,